Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, rencontre avec un champion à la très longue carrière sportive. Normal, c'est un cavalier. Bonjour José Le Tartre.
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes né au Venezuela, dans les bidonvilles de Caracas, avec une malformation qui vous prive de vos deux jambes à partir du genou. C'est ce qu'on appelle une agénésie des deux membres inférieurs. Après 18 opérations, vous êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans. Vous avez découvert les chevaux dans votre famille d'adoption. Vous avez été 12 fois champion de France de parasaut d'obstacles. Je ne sais pas si je vais détailler tout votre palmarès parce qu'il est très long, mais champion du monde, champion olympique, des médailles aux championnats d'Europe de paradressage. Vous avez participé à 5 Jeux paralympiques. Paris 2024 sera peut-être vos 6e jeu si vous êtes qualifié. Et merci d'ailleurs d'être en direct chez nous sur RFI, parce qu'en ce moment, le timing est très serré pour vous. On est dans les dernières qualifications avant Paris 2024. Et en plus de 30 ans de carrière sportive de haut niveau, avec plusieurs disciplines, l'endurance, le saut d'obstacle, le dressage, le hunter, le concours couplé, vous allez nous raconter surtout l'évolution du handisport en France et dans le monde. Et peut-être vous nous donnerez le secret de votre carburant personnel.
Carburant personnel, je dirais que c'est... Donc effectivement, je suis né dans les bidonvilles de Caracas, au Venezuela. J'ai effectivement... Donc c'est une agénésie des deux membres inférieurs. Sauf que j'ai mon genou des deux côtés. Sur ma jambe droite, je dois avoir à peu près en gros 20 cm en dessous du genou. Sur ma jambe gauche, j'ai 10 cm en dessous du genou. Mais à l'époque, j'avais des pieds mal formés, très mal formés, parce que c'était ou un doigt ou... un orteil, bon, je ne sais pas trop, parce que quand on est gamin, on ne se rend pas compte de tout ça. Et donc, en fait, des sœurs de charité, quand elles ont fait le tour du bidonville de Caracas, elles ont estimé, et elles ont conseillé à ma mère de m'abandonner, mais elles ont fait ça sciemment, puisqu'en fait, dans l'orphelinat, il y avait une équipe de chirurgiens américains qui, eux, m'ont opéré, donc les 18 à plusieurs reprises pour faire des moignons propres.
Tout ça est raconté dans votre livre à vive allure qui paraît aux presses de la cité. Et bien sûr, on va en discuter, mais on va aussi discuter du champion que vous êtes devenu. Hein. En fin d'émission, la rubrique Mondo Blog chez les voisins, où il sera d'ailleurs question de basket fauteuil en RDC.
8 milliards de voisins.
Une population qui s'agrandit, de nouveaux défis et encore plus d'opportunités.
José Le Tartre, déjà Paris 2024, 17e édition des Jeux paralympiques, 22 sports présents, 23 disciplines, 549 épreuves. Où est-ce que vous en êtes dans les qualifications ?
Alors pour l'instant, je dirais que tous les cavaliers ont couru en gros les grosses qualifications. Maintenant, c'est la Fédération française d'équitation qui va décider. On a une première liste de 6 cavaliers qui vont sortir le 9 juillet. Et dans les 6, aux premières semaines d'août, sera décidé les 4 derniers qui participeront aux Jeux de Paris 2024.
Et ça veut dire qu'il vous reste aussi des concours d'ici là ?
Alors normalement, en fait, il y aura l'équipe de 6, les derniers 6 qualifiés, iront en Hollande le week-end... Dern. Moi, j'ai fait Kronenberg il y a 15 jours, où ça s'est assez bien passé. Et donc, en fait, les 6 derniers auront un concours international qui sera le dernier. Ça permettra à la fédération de décider des 4 qui prendront pour faire Paris 2024.
C'est très serré ?
Ça l'est.
Dans quel état d'esprit on est dans ces cas-là ?
Alors, je dirais que moi, c'est un peu spécial parce que j'ai quand même j'ai eu la chance de participer à 5 Jeux paralympiques, dont les tout premiers, puisque bon, les Jeux paralympiques pour les personnes handicapées existent déjà depuis plusieurs années. Ça a commencé en 1948, je crois. Mais l'équitation, c'est assez frais, puisque la première fois qu'il y a eu l'équitation, c'était à Atlanta, donc c'est 96. Dont j'ai eu la chance de participer avec une équipe. Et effectivement, pour nous, c'est pas si vieux que ça. Mais ça reste quand même... j'ai eu la chance de faire Atlanta, où un des cavaliers est médaillé d'argent par équipe, pas individuel. On est médaillé de bronze par équipe, ce qui est pas si mal pour la première fois qu'il y avait les Jeux. Et puis après...
C'est donc champion olympique.
Donc voilà. En par équipe, pas un individuel.
Cavalier de grade 4, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Alors en fait, il y a, à l'heure actuelle, il y a 5 grades différents et c'est suivant la classe, bon, la classe de handicap. On passe devant une commission de médecins et suivant le handicap qu'on a, c'est-à-dire que si on est en fauteuil roulant, bien sûr, on ne peut pas trotter, on ne peut pas galoper avec un cheval, donc on ne fait que des reprises au pas. Donc c'est le grade 1. Après, il y a le grade 2 où ils peuvent trotter. Ils sont aussi en fauteuil roulant, mais un peu moins bloqués, donc ils peuvent faire du pas et du trot. Et après, on atteint le grade 3 où ils c'est des gens qui normalement marchent debout et qui ont le droit de faire une longueur de carrière qui fait 40 mètres de long. Ils ont le droit de galoper sur une longueur de carrière. Et après, il y a le grade 4 et le grade 5. C'est ceux qui sont, je dirais, les moins handicapés. Même si on a un handicap, on est les moins handicapés, surtout le grade 5, où là, on a le droit d'effectuer les 3 allures. Pour comparer, je dirais, le dressage, en fait, c'est pour les gens qui font du patinage artistique ou qui ont suivi le patinage artistique. C'est-à-dire que le premier jour, il y a une épreuve avec une chorégraphie à effectuer, jugée par un certain nombre de juges. Et c'est des imposés, ce qu'on appelle des imposés. Les juges donnent une notation par rapport à ça. Une notation de 0 à 10 sur chaque figure. Au bout du compte, ça fait un total. Ce total est transformé en pourcentage. Et c'est ce qui nous donne après notre place sur l'échiquier de la compétition. Et donc il y a ça le premier jour. Le deuxième jour, il y a aussi une deuxième qualificative par équipe, pareil sur des imposés, comme au patinage artistique. Et en fait, le cumul des deux nous permet d'aller éventuellement le troisième jour sur une reprise libre en musique. Pareil pour le patinage artistique, où en fait, on a une chorégraphie, on a quelques figures imposées. Et le reste, il y a une musique de tant de minutes. Pour nous, c'est entre 4 minutes 30 et 5 minutes, où on doit effectuer donc, les figures imposées et des figures libres à notre choix, mais sur un temps de musique. Et il faut être le plus juste possible par rapport à la musique, par rapport au temps, par rapport... Et on devient éventuellement champion. On a pareil un pourcentage. On est, voilà.
Vous comparez avec le patinage artistique parce que vous êtes sympa, vous vous mettez à la place du grand public, José Le Tartre, et vous êtes bien conscient que l'équitation reste une discipline relativement confidentielle. Je parle même pas de la pratique, mais de la visibilité dans les médias.
Le problème de la visibilité dans les médias, grâce à vous, on va prendre un peu plus de visibilité à tous les médias, de fait que ce soit aussi sur Paris, France 2, France 3, tous les médias qui vont retransmettre.
Mais
tout
là,
ça.
Qu'il s'agisse des valides ou du para, ou du paralympisme.
Je dirais qu'il y a un peu plus de chance avec les valides, parce que c'est un peu plus reconnu. Les paras, ça reste encore assez un petit peu fermé. Quoi.
À 5 ans, votre père adoptif vous met sur un cheval. Il élève des chevaux. Vous avez des souvenirs de ce moment-là où il dit à votre mère adoptive « il sera cavalier ». Rien que le fait de vous voir sur le cheval, à l'époque, vous êtes déjà équipé de prothèses. D'ailleurs, c'est un mot que vous n'utilisez jamais dans votre livre.
Ah non, parce que...
Parlez de vos jambes.
Je dirais c'est mes jambes. Oui. Voilà, j'ai acquis. Et souvent, quand on discutait avec des personnes handicapées, amputées, quand ils parlent de leurs membres manquants, quand ils disent c'est ma jambe, c'est mon bras, c'est ma chaise, mon fauteuil roulant et tout ça, c'est qu'il a inculqué dans sa façon de vivre et de tous les jours et tout ça, son handicap. À partir du moment qu'on va chercher une prothèse, je pense qu'on a malheureusement une partie encore qui n'est pas on n'a pas l'acceptation totale.
Est-ce que vous souvenez de ce moment de l'évidence quand vous êtes monté sur un cheval à 5 ans ?
Alors pour moi, je dirais qu'à 5 ans, déjà c'était pas, au départ, ce n'était pas ma famille d'adoption. C'était en fait, je devais être adopté sur Paris et cette famille a refusé l'adoption. J'ai été mis en attente dans le Lot, donc chez les Le Tartre, qui eux avaient des chevaux et effectivement, c'est eux qui m'ont mis sur un cheval. Moi, je trouvais ça très rigolo. J'avais 5 ans, donc quand on est gamin, on monte sur un immense... animal qui fait 500 kilos et que je trifouillais, je dirais, parce qu'à l'époque, j'étais pas professionnel et je suis toujours pas plus professionnel. Je suis un amateur averti, je dirais.
Ouais,
et donc,
c'est vite
du coup,
dit.
C'est ça qui m'a permis de faire de l'équitation.
À 13 ans, vous participez à une compétition équestre d'endurance à Florac avec votre frère qui est cavalier professionnel. 130 kilomètres à cheval en plus de 10 heures.
Ben moi, je l'ai fait en plus de 10 heures. Normalement, c'est une course d'endurance. Et en fait, à l'époque, aujourd'hui, il y a des tempos horaires à respecter et tout ça. À l'époque, c'était un petit peu... Il ne fallait pas que le cheval soit arrêté au niveau vétérinaire pendant les contrôles vétérinaires. Et donc, on partait et on était... on arrivait jusqu'au bout. Et moi, je finis 13e de cette compétition.
Sauf que 13e de cette compétition de 130 km, hein, équitation de compétition équestre d'endurance. Mais personne ne sait à ce moment-là, à part votre frère, que vous êtes amputé des deux jambes.
Disons que les amis proches me connaissaient un petit peu. Dans le milieu du cheval, j'étais un peu connu quand même.
Le plus jeune et le seul...
J'étais le seul handicapé, oui, effectivement.
Et donc, à l'arrivée, stupeur générale.
Oui, parce que 130 km quand, dans une seule traite...
À 13 ans,
il faut déjà avoir un peu le moral. C'est que c'est comme quelqu'un qui court un marathon. Hein. Un marathon, c'est 42 km. Il y a des moments où on ne sait plus si on doit marcher, courir, être à côté du cheval, être...
Ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est que l'autre miracle, c'est que sur 130 km, vous ne perdez pas vos jambes. Très souvent, en fait, quand vous montiez à cheval, à l'époque, hein, les prothèses tombaient.
Elle tombait parce qu'en fait, c'était surtout un problème. C'est un système de prothèses qui sont tenues, je dirais, par la force musculaire. Et dès que je décontracte un petit peu les muscles, notamment quand je vais faire du ski ou des choses comme ça, avec le froid, ça se décontracte. Et le poids des prothèses me disent au revoir. Donc, ça peut éventuellement être un peu compliqué.
Vous restez bien sûr avec nous, José Le Tartre. On a beaucoup de questions à vous poser. On va parler des chevaux, de votre passion, de ce mental aussi que vous avez construit au fil des années, grâce à votre famille notamment, mais aussi à tout un milieu, celui de l'équitation, qui est un milieu à la fois dur, où l'argent circule beaucoup, mais il y a aussi de belles solidarités. On se retrouve juste après Amadou et Mariam, en sélection officielle de la playlist RFI. Tamara ibeko ye ibeko don magolo. Ambi fe kasigi so. Ambanga fanu befo.
Ina chama kalande
magolo.
Ina chama famu.
Ni ya la la ibe ko ye ibe ko dan.
Cœur de voisin, nous sommes en direct sur RFI avec vous, José Le Tartre. Vous publiez à vive allure des bidonvilles de Caracas au podium des Jeux paralympiques. Vous êtes champion d'équitation, de paradressage hein, pour certaines...
Effectivement, pour la partie, je dirais, aux Jeux paralympiques, il n'y a que du dressage. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure avec comme le patinage artistique. Et moi, je tourne avec les cavaliers valides en saut d'obstacle.
Vous avez participé à 5 Jeux paralympiques. Les carrières sportives dans l'équitation, que ce soit pour les valides ou le paralympisme, sont parmi les plus longues. En général, hein, les cavaliers aux Jeux sont parmi les sportifs les plus âgés.
Bah, disons que ce n'est pas nous qui faisons le travail, hein, c'est le cheval. Il faut être
ça
en condition
physique. Ce sont les ignorants qui vous disent ça,
non ? Mais c'est vrai, c'est le cheval qui fait le plus gros du travail. Donc, à nous d'être suffisamment en forme et mettre le cheval en forme. Mais c'est quand même le cheval qui porte, qui fait tout le travail.
Je précise quand même que vous êtes bâti comme un athlète, que vous nagez remarquablement bien, que vous jouez au tennis, que vous faites du ski, du rugby, que vous êtes un sportif de haut niveau accompli. Hein.
Bah, disons que j'ai touché à tous les sports et je me suis plus dirigé après à l'équitation parce que c'était plus ma discipline de prédilection.
Ouais, touché, comme vous dites, modestement. C'est un sport dangereux, l'équitation, avec beaucoup d'accidents. Il n'est pas rare de voir d'anciens cavaliers en fauteuil parmi les spectateurs d'une compétition. Moi, j'ai vu ça personnellement. Est-ce que ce danger, vous l'avez appréhendé différemment au fil de votre vie en étant déjà handicapé ?
Bah, disons que, comme je dis souvent, je suis déjà handicapé. Donc, un peu plus ou un peu moins, ça ne change pas la donne. Hein, ça revient au même. Mais non, il faut faire attention. Après, effectivement, on joue avec un animal de 500 kilos qu'il faut faire attention. Mais je pense qu'à partir du moment qu'on sait les préparer ou qu'ils sont bien préparés ou par nos coachs ou par des gens professionnels, il n'y a pas de raison et il ne faut pas engager, je dirais, dans des épreuves, que ce soit c'est surtout en concours complet où il y a eu quelques accidentels et graves.
Avec le saut.
Voilà, mais en saut d'obstacle, c'est quand même assez rare parce que les barres, elles tombent. Le concours complet, c'est des obstacles fixes et que du coup, bon, maintenant, il y a certains obstacles où ça devient un peu plus... C'est la réglementation internationale qui fait que c'est des obstacles qui tombent aussi. Mais ça reste quand même, quand vous lancez, vous regardez avec votre voiture, si vous êtes à 30 à l'heure, vous prenez un piqué, ça fait du dégât quand même. Hein. Donc là, vous êtes à 30 à l'heure sur un cheval, obligatoirement, il peut y avoir accident. Quoi.
Vous évoquiez le saut. Les premiers Jeux paralympiques auxquels vous participez, c'est Atlanta en 1996. Vous racontez très bien ça dans votre livre à vive allure. Les épreuves sont quand même assez mal organisées. Les organisateurs vous font sauter des hauteurs qui sont beaucoup trop basses.
Alors, pour les Jeux paralympiques à Atlanta, en fait, il n'y avait pas du tout de saut d'obstacle. Il n'y a jamais eu de saut d'obstacle en fait, aux Jeux paralympiques. Il n'y a que du dressage. Uniquement que du dressage. Donc ça, c'est quand je faisais quand il y avait le para-CSO, je dirais, en France, uniquement en France, parce que c'est la France qui avait lancé cette discipline. Et c'est vrai que les organisateurs de concours comme à la Bolle et d'autres concours, ils ne savaient pas trop, ils ne savaient pas comment danser, ils ne savaient pas comment les cavaliers montaient. Donc effectivement, ils avaient tendance à mettre des hauteurs de barre qui étaient assez petites. Et moi, j'avais des chevaux qui, déjà à l'époque, sautaient des 1m35, 1m40. Donc, quand vous avez 1 mètre à sauter, les chevaux, ils se disent « Oh là, qu'est-ce qui se... » Alors, c'est plus facile. Mais on peut faire la faute quand même, hein, ça n'empêche pas.
Et comment vous avez vu évoluer entre vos premiers Jeux en 96, ensuite vous avez été... comment vous avez vécu cette évolution? Parce que vous êtes un des pionniers. Sydney, ensuite, en 2000. Athènes, en 2004. Pékin.
Vous
n'avez pas participé. Londres.
Londres et Rio.
Londres 2012.
Voilà.
Il y a eu un tournant.
En fait, il y a eu vraiment au début, déjà parce qu'en France, le handicap, malheureusement, comme vous voyez dans le public et tout ça, on le cache, on ne veut pas en entendre parler, on le cache, on a un peu peur des personnes handicapées et tout ça. Quand on est parti à Atlanta, donc pour la première fois qu'il y avait l'équitation, heure d'écoute en France des Jeux paralympiques, c'était 3 minutes. J'étais plus connu sur CNN, des amis qui regardent CNN, que sur les chaînes françaises. Tokyo, les derniers Jeux, je crois qu'il y a eu 250 heures de retransmission. Donc on est passé 96 à 3 minutes à 250. Mais c'est pas comme Londres, par exemple, où ça
passait... Qu'est-ce que vous avez changé ? Qu'est-ce que vous avez senti à Londres en 2012 ? Parce que déjà, vous êtes dans le pays qui a inventé les Jeux paralympiques en 1948.
Voilà. Bah, disons que eux, déjà, quand on était arrivé, les bannières d'accueil, c'était notre galop d'essai est terminé, maintenant les vrais athlètes arrivent. quelle nation est capable de signifier que les Jeux Olympiques, c'était un galop d'essai, avec des valides qui font quand même des performances exceptionnelles, et où nous, on arrive derrière et on nous dit « Ben non, non, les autres, c'était juste pour essayer, vous, vous êtes des vrais athlètes. » On n'a jamais eu ça dans notre vie.
Sous-entendu, les héros de votre propre
Donc,
vie aussi.
Voilà, c'est, pour nous, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et sur les chaînes anglaises et les chaînes partout où il y avait des télévisions qui retransmettaient, sur tous les sites qui retransmettaient 24 heures sur 24. Quand on regardait la télévision le soir, on pouvait voir tous les sports. Malheureusement, alors ça a donné, je dirais, un vrai coup de foudre après dans pas mal de nations et tout ça, mais et notamment en France. Donc j'espère que Paris, on aura un peu plus de visibilité. Mais et ça, c'est compliqué parce qu'à partir du moment qu'on n'a pas la visibilité, ben on n'a pas non plus les partenaires financiers, on n'a pas les sponsors, on n'a pas les par rapport à un match de foot. Bon, moi je suis pas footeux malheureusement, mais quand vous avez 22 coureurs, 22 de footeux qui jouent pendant 90 minutes, et ben vous pensez bien qu'une société, des grosses sociétés, pendant 90 minutes, elles ont de la publicité. Nous, c'est un parcours ou une reprise de dressage qui dure 2 minutes ou 4 minutes. Ça devient compliqué, quoi.
Vous parliez de l'argent, justement. Pendant des années, en fait, vous avez travaillé comme ce qu'on appelle groom, hein, palefrenier, c'est-à-dire que vous vous occupez des chevaux, des champions dans des écuries de compétition de très haut niveau, des chevaux qui valent très très cher. On pourra peut-être donner des exemples pour que les auditeurs se représentent le prix d'un cheval aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris en étant dans les coulisses des vainqueurs au départ ?
Bah, j'ai pas appris grand-chose, c'est surtout que bon, c'était mon métier de base, mais c'est que je m'étais dit, en travaillant dans le milieu du cheval, j'aurais des chevaux pour faire de la compétition, et en fait, bah, pas du tout. Hein. C'est, on
Malgré
reste
les
groom,
médailles
Non, parce que j'avais des médailles à côté, mais à l'époque, j'étais connu parce que j'étais le seul double amputé qui travaillait dans le milieu du cheval, qui montait des chevaux, qui présentait des chevaux à, par exemple, vous êtes une cliente, j'ai envie de venir acheter un cheval, quand vous veniez chez des marchands de chevaux chez qui j'ai travaillé, et ben, c'était moi qui vous présenter le cheval, donc il fallait que je vous le présente au mieux. Bon, après, ben, le patron, c'était vous rendez compte, je l'ai embauché, il a pas de jambes. Et il arrive à faire ça. Ah, ben alors moi, je vais être champion olympique. Puis si ça se passait pas très bien, ah, vous savez, je l'ai embauché, mais il a pas de jambes. Ah, ben oui, mais voyons, vous comprenez, s'il a pas de jambes, c'est normal que ça aille pas. Moi, avec les miennes, ça ira. Donc de toute façon, il gagnait sur les deux tableaux. J'en ai pris mon parti, mais ça m'a permis de monter beaucoup de chevaux, et d'apprendre mon métier, d'avoir la chance de monter énormément de chevaux, quoi.
Aujourd'hui, vous avez un emploi municipal, avec un emploi du temps, des journées à rallonge. Hein. Vous démarrez à 7h du matin et vous finissez à quelle heure
Alors, effectivement,
là, vous arrivez des écuries, là
Là, j'arrive des écuries, justement. J'ai monté mes deux chevaux de compétition ce matin, plus les chevaux de l'écurie qui sont où sont basés mes deux chevaux. Normalement, je finis à 11h30 de m'occuper des chevaux. Je rentre chez moi, je dépose mon chien, mon ami, et je me change, puisque je travaille effectivement pour la mairie de Paris, pour la propreté de la ville. Les beaux camions verts qui embêtent tout le monde à 5h du matin, c'est mon
vous.
Service. C'est pas moi, mais c'est mon service. Moi, je suis du service d'après-midi, donc on fait principalement les marchés et tout ça. Donc je commence normalement à 13h, on sort du garage avec le camion à 13h10 et on finit à 20h30.
Il est 12h33 là, vous ne serez pas à l'heure, mais vous avez les horaires aménagés en tant que sportif de haut niveau, en tant que champion. Comment se situe la France dans sa politique publique d'aide aux athlètes de haut niveau par rapport aux collègues que vous avez croisés d'autres pays lors des Jeux Olympiques ou des compétitions internationales, championnat du monde, championnat d'Europe?
Je dirais que c'est compliqué dans beaucoup de pays, il y a des pays qui aident plus, comme l'Angleterre et tout ça, parce qu'ils sont baignés là-dedans depuis plus longtemps et tout. Chez nous, on commence, les valides, je dirais, il faut faire partie des 30 meilleurs Français pour éventuellement avoir des aides, un peu plus d'aides. Nous, on en a. Je ne crache pas dans la soupe, on en a. Mais effectivement, il faut ramer un petit peu, faire un petit peu des bons résultats, aller à droite à gauche. Et ça, malheureusement, pour aller à droite à gauche, c'est nos deniers personnel de moi, mon ami, les quelques partenaires financiers que j'arrive à avoir et des amis là comme Thierry Lhermitte justement,
le comédien.
Comédien qui en fait a financé une partie du cheval de dressage avec l'objectif d'être qualifié à Paris et peut-être aussi être médaillé si je suis à Paris.
Le cheval que vous montez à l'heure actuelle, ça vaut combien ?
Alors, en moyenne, faut compter, si on veut vraiment être performant aujourd'hui, c'est des chevaux qui coûtent entre 60 et 100 000 euros.
Vous avez grandi dans une famille à la campagne. L'accès aux chevaux, évidemment, était à ce moment-là beaucoup plus facile, moins coûteux. Hein, mais ça reste quand même une discipline, surtout en France, hein, moins au Royaume-Uni, mais ça reste une discipline où il faut donc beaucoup de moyens financiers par rapport à d'autres sports. Genre, c'est pas comme la natation avec les clubs et les piscines publiques. Même s'il y a des institutions publiques comme le Cadre Noir à Saumur. Mais ça veut dire que vous avez non seulement ramé, comme vous le disiez, sur le plan sportif, hein, comme tous les sportifs, valide ou pas, peu importe. Mais vous avez aussi ramé pour courir après l'argent, pour trouver des chevaux.
J'ai ramé, effectivement, mais je ne suis pas le seul. Hein, chez les valides aussi, ça arrive.
Oui, bien sûr.
On est tous à plus ou moins à ramer. Quand on fait des résultats, alors c'est vrai que moi, j'ai quand même un panel de résultats qui pourrait penser que je pourrais être beaucoup plus aidé. Le problème, c'est que, comme je disais pour les footeux, c'est que les footeux, il y a 90 minutes où vous allez avoir Carrefour, Auchan, peu importe, les grosses sociétés qui vont faire de la publicité pendant 90 minutes. Nous, ça ne dure pas longtemps et que, visuellement, c'est compliqué de le faire voir à la télévision et que le problème, c'est que du coup, les médias ne s'y rattachent pas non plus beaucoup. Donc après, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est à partir du moment qu'il n'y a pas les médias, ben, les sponsors, ils ne viennent pas parce qu'on ne parle pas d'eux et les médias ne viennent pas parce qu'on n'est pas assez visuel, je dirais, sur la chaîne, moi, sur l'échiquier mondial. Aujourd'hui, c'est le foot qui prime.
Comment vous avez compenser le manque d'argent dans votre relation avec les chevaux, dans la façon de construire vraiment un partenariat, un couple avec le cheval et en le connaissant quasiment dès sa naissance, dès son très jeune âge, 3 ans.
Je ne les connais pas tous de leur très jeune âge.
Mais ceux que vous avez eus, ceux que vous avez montés.
Mais il y en a certains que j'ai montés, que j'ai eu jeune, il y en a d'autres que j'ai montés plus tard. Je dirais que pour moi, la connivence, c'est surtout que j'essaye de l'écouter, de savoir comment lui fonctionne. Et par rapport à ça, je vais me dire, j'ai monté beaucoup de chevaux différents, j'ai fait un checker, je mets tout dans le checker, et je secoue bien, et puis je dis, j'ai eu un cheval qui était de même style, je vais essayer ça, est-ce que ça va marcher? Si ça ne marche pas, ou je passe à autre chose, ou je vais le promener, ou je le remets au box, et lui, il va aller manger de l'herbe, en disant, demain, j'essaierai autre chose, et puis voilà. On n'impose pas à un animal de 500 kilos quelque chose. En gros, un cheval, ça fait 500 kilos, l'être humain, il en fait quoi, 50 tout mouillé, 60, allez, on va dire 60 kilos tout mouillé. Donc le rapport poids-force, il n'y est pas. Hein. Votre maillot de bain, vous avez plus de facilité de le mettre dans un coin. Un cheval, malheureusement, vous ne pouvez pas dire, je vais le mettre dans un coin et puis je vais partir en vacances 3 mois et quand je reviendrai, voilà quoi. Non, il faut s'en occuper tous les jours. Donc je dirais que moi, c'est vraiment, c'est une connivence. J'essaye d'abord de savoir comment le cheval fonctionne, comment il réagit et par rapport à ça, je vais lui dire, toi, tu as fait ça comme ça, mais si tu essayes de faire ça comme ça, peut-être que ce sera plus facile pour toi. Donc, ou il accepte ce chemin de traverse, ou il accepte pas, et j'essaye un autre chemin de traverse pour arriver à mes fins.
Donc, vous lui parlez ?
Est-ce que je pourrais dire que je murmure à l'oreille des chevaux, tel le film qu'il y a eu avec Robert Redford, je ne sais pas. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas à moi qu'il faudrait le dire, qu'il faudrait poser la question. C'est aux gens qui me côtoient et qui me suivent. C'est qu'effectivement, ça donne la sensation que je leur parle aux oreilles, quoi.
Et à la différence d'autres sportifs, c'est que quand on connaît un deuil dans le domaine de l'équitation, quand on perd un cheval, ça vous est arrivé, c'est arrivé à de nombreux cavaliers, c'est extrêmement dur de s'en remettre, de remonter à cheval. Voilà.
C'est pas facile parce que je pense que c'est comme quand une maman perd son enfant, hein, c'est quelque chose, est-ce qu'on va savoir en refaire un? Moi, ça dépend à quelle époque, est-ce qu'on va pouvoir en refaire un? On refait jamais une copie conforme, de toute façon. Donc, il y a tout un processus et quand on a élevé ou fait grandir un cheval et qu'on est arrivé, je dirais, dans des grosses épreuves où on sait qu'on pouvait éventuellement aller prétendre à aller courir de très, très grosses épreuves, eh bien, c'est dur de le perdre. Et effectivement, on a envie, je dirais, un petit peu de tout arrêter et que il faut arriver à... Moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont dit « c'est pas grave, t'as perdu, mais... » reprends un cheval, on le financera et il faut que tu continues. Et c'est ce qui m'a permis toujours de pouvoir avancer.
Vous restez avec nous, José Le Tartre. Dans quelques instants, nous partons pour Tokyo pour voir si, depuis les Jeux paralympiques, la ville a évolué dans ses infrastructures pour les personnes en situation de handicap.
8 milliards de voisins.
Parce que les pays les plus éloignés aujourd'hui, nous sommes des voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
Alors, est-ce que les Paralympiques peuvent changer la ville et donc la vie aussi des personnes en situation de handicap? Et plus largement, est-ce que les habitants de Tokyo, voire même les Japonais, ont changé de regard sur le handisport et les exploits accomplis par les athlètes? Bonjour Bruno Duval.
Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes et tous.
Vous êtes un des correspondants de RFI à Tokyo. Est-ce que les Jeux paralympiques de Tokyo, il y a 3 ans, ont changé la ville?
Oui, ils l'ont rendu encore plus « barrière-free », comme disent les Japonais, en anglais dans le texte. Une ville sans barrière, donc accessible à tous. Avant même la tenue de ces Jeux, Tokyo faisait figure de modèle en la matière. Ici, par exemple, les revêtements de sol en relief sont omniprésents. Vous savez, ces pavés tactiles qui guident les malvoyants dans leurs déplacements. Et puis au carrefour, un signal retentit quand le feu passe au vert pour les piétons. Et ce signal varie d'un carrefour à l'autre, ce qui permet aux malvoyants d'identifier l'artère qu'ils s'apprêtent à traverser. Ou alors, dans les transports publics, les messages en braille sont innombrables. Les Jeux ont encore accru cette inclusivité. Par exemple, dans les gares et les stations de métro, les portes palières ont été généralisées le long des quais, pour éviter que des malvoyants chutent sur les voies. Désormais, la plupart des bus ont un plancher surbaissé, ce qui permet aux personnes à mobilité réduite de les emprunter. Un tel plancher équipe aussi le nouveau modèle de taxi que Toyota a mis en service à l'occasion des Jeux. Et puis le dénivelé entre le trottoir et la chaussée a été supprimé aux grands carrefours, qui sont désormais de plein pied. L'accessibilité des hôtels a aussi été améliorée. De nouvelles règles leur ont été imposées, concernant notamment la largeur minimale des portes des chambres, afin qu'elles soient accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Et plusieurs infrastructures ont été créées à l'attention des sportifs handicapés amateurs, qui se plaignaient de ne pas avoir assez de lieux où ils pouvaient faire du sport.
Et comment les Tokyoïtes et les Japonais en général ont vécu ces Jeux paralympiques ?
Eh bien, ces Jeux ont suscité l'engouement. Il faut dire que les para-athlètes japonais ont remporté 2 fois plus de médailles qu'aux Jeux précédents, à Rio en 2016, donc ça a encore accru leur popularité, qui est immense ici. De nombreux athlètes moins valides figurent dans la liste des sportifs préférés qui est publiée chaque année, ce qui explique que la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques a été regardée par 1 foyer sur 4, c'est un audimat sans précédent. Problème, ensuite, les télévisions n'ont pas retransmis beaucoup d'épreuves en direct, alors qu'elles ont multiplié les éditions spéciales pendant les Jeux Olympiques. Ça renvoie à une des failles de l'inclusivité japonaise, l'invisibilité des personnes handicapées, qu'on ne voit vraiment pas beaucoup dans les médias, et qui sont peu nombreuses parmi les personnalités, dans la classe politique ou le monde des affaires, par exemple. Leur insertion professionnelle est d'ailleurs lacunaire, et pour cause, la plupart des entreprises et même des administrations ne respectent pas le quota qui leur impose d'employer 2% de salariés moins valides. Résultat, sur les 10 millions de Japonais handicapés, seuls 800 000 ont un emploi, alors qu'un sur deux serait à même de travailler. Et puis dans les sondages, 36% des moins valides disent avoir été victimes de discrimination en raison de leur handicap. Bref, et c'est indéniable, les Paralympiques ont eu un impact sur l'espace public et donc sur la vie quotidienne des handicapés. Au-delà, ont-ils changé le regard que les Japonais portent sur le handicap? Eh bien ça reste à démontrer.
Merci Bruno Duval à Tokyo. José Le Tartre, il ne s'agit pas seulement de baisser la hauteur des trottoirs pour arriver à faire vivre ces Jeux paralympiques et changer le regard en général sur le handicap. Vous, comment vous avez vécu ça?
Bah disons que effectivement, pour avoir été sur plusieurs Jeux paralympiques, je dirais que quand je vois la France aujourd'hui, malheureusement, on est encore loin des installations qui ont été imposées par les gouvernements et tout ça. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Aujourd'hui, moi je suis pas handicapé parce que j'ai mes 2 jambes, mais prenez rien qu'une maman avec sa poussette et son enfant pour aller dans le métro à Paris, elle n'est pas handicapée. Mais elle a des difficultés. Regardez les chiens guides d'aveugles, ils ne peuvent pas rentrer dans les magasins. C'est quand même le chien qui guide l'aveugle. Donc on a de toute façon, je pense, malheureusement, un regard. Oui, ça a évolué. Heureusement que ça a évolué. Mais
sur la visibilité dans les médias, selon l'ARCOM, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, le 60% des Français déclarent qu'ils ont l'intention de suivre les Jeux paralympiques. C'est 7 points de moins que les épreuves olympiques. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça progresse?
C'est que les médias soient vraiment présents, qui retransmettent.
Oui, mais les médias disent que la diffusion du handisport ne fait pas vraiment recette, vous voyez, donc tout le monde se renvoie la balle.
Le problème, c'est que quand on discute avec le public, les gens qu'on rencontre et tout ça, ils trouvent « Ah, c'est formidable, il faudrait voir ». Donc, ils ont envie de voir, mais d'un autre côté, on a toujours ce problème où le handicap, on n'a pas envie de le voir, parce que malheureusement, pour beaucoup de gens, l'handicapé, c'est quoi ? C'est quelqu'un en fauteuil roulant, qui est un peu avachi dans son fauteuil roulant, qui a le petit filet de bave qui coule sur le côté, et c'est pas joli, pas une belle image, donc on ne se rend pas compte des athlètes qui font quelques...
Réalités.
Et des réalités, oui.
Merci José Le Tartre. Vous restez encore avec nous quelques minutes, si vous voulez bien. Dernière séquence chez 8 milliards de voisins, avec Mondo Blog chez les voisins et les blogueurs francophones qui s'intéressent au handisport. Je rappelle le titre de votre livre, « À vive allure, des bidonvilles de Caracas au podium des Jeux paralympiques ». Et on se retrouve juste après l'artiste nigérian Maisie, de l'amapiano sud-africain à l'afrobeats, super travaillé en studio. Pas de doute, hein, c'est la recette gagnante nigériane. Et c'est celle qu'on aime chez 8 milliards de voisins.
Yo estoy comando, llena tutto de tango. Baby go down low, make my shoot like a Django. Make my one go full throttle, body shape like a buckle. Make my press pan it lickle, try the press pan me subtle. Yo, 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 yo. Body chun yo jo jo jo, now be kanji yo go go go, yeah come for me yo go go go, oh yeah jo kiri jo jo jo, now be funny yo go go go, oh yeah show me yo jo jo jo, what the guan yo what the guan, zare wa, zare wa, zare wa, zare wa, oh yeah na, oh yeah na, oh yeah na, oh yeah na, shimmy me, shimmy yo, shimmy ye, shimmy ya, zare wa, zare wa. Sarewa, sarewa, stretti comando, sarewa, outfit blanco, sarewa, bomba carambo, sarewa, manna shooter coberto, sarewa, stretti comando, sarewa, outfit blanco, sarewa, shooter carambo, sarewa, free kick like a Carlos, sarewa, yeah. Chasing paper, not cut from the same cut, call me Draper. We stack until it's tall skyscraper. Plenty girl wanna sit for man taper. Tell him send a Mazda, electric like Tesla. Cut me any pan, ice no chase. Kill the rhythm, pan like assassination. Send the money to me, cash no paper. Shut the talk to me nice now. Check the vibe, man, they bring pan it right now. Realize it, don't tell, we stay grand now. Tell a man, send a maze, pan mic now. Tell a man, send a maze, get banga. He de bang, he de enter like charm. He de bang, he de make some de anger. He de bang, he de joke, he de arm. Yeah, yeah.
Chez les voisins maintenant sur RFI avec cette semaine Thibaut Matta. Bonjour Thibaut.
Bonjour Emmanuel.
Grâce à Mondo Blog et vous partagez vous aussi un regard sur le handisport en Afrique.
Oui exactement, moi je voulais vous parler aujourd'hui de sport et d'inclusion et il se trouve que c'était le thème de votre émission aujourd'hui hein, donc ça tombait très bien. José, j'ai une petite question, est-ce que vous saviez qu'il existait des Jeux paralympiques à l'échelle continentale?
Pas vraiment, non. Vous me l'apprenez, malheureusement. Je sais qu'il y avait des jeux pour les vétérans, donc les anciens, comme moi maintenant, parce que j'ai 60 ans. Mais je ne savais pas du tout qu'il y avait des jeux comme ça. Donc ça peut être, ça peut être très positif.
60 ans et compte bien faire encore peut-être deux jeux.
J'aimerais bien, mais bon, on va voir.
Los Angeles.
Los Angeles et Brisbane.
en Australie.
Et ben moi non plus, j'étais pas au courant. Je me suis un petit peu renseigné en faisant cette chronique. Les pays asiatiques, en fait, le continent asiatique a été le premier à organiser ces Jeux paralympiques en 2010. Et le continent africain a aussi organisé sa propre compétition paralympique. Elle s'est tenue à Accra, la capitale ghanéenne, en septembre 2023. Et durant ces Jeux paralympiques africains, on a pu retrouver du handi-basket.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler très brièvement les règles du handi-basket ?
Alors, le principe, il reste le même qu'au basket. Il y a besoin d'un ballon, de deux paniers, deux équipes de cinq joueurs qui s'affrontent pendant quatre périodes. Donc, rien ne change, sauf que ce sont des joueurs qui jouent au basket en fauteuil roulant.
Et un des mondo-blogueurs a choisi ce sport pour son billet, son blog.
Tout à fait, il est tout nouveau. Il s'appelle Nervi Kadieboué, il a tout juste 22 ans et il a été sélectionné lors du concours d'entrée à Mondoblog de 2024. Alors, dans son premier article, il a voulu braquer les projecteurs sur la sélection de handibasket de son pays, la République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais un tout premier article, c'est toujours fort et symbolique. Ça donne la ligne éditoriale du blog, mais alors, qu'est-ce que ça signifie pour lui ?
On vit dans une société où les personnes vivant avec handicap font face à beaucoup de stéréotypes, à des discriminations. Et moi, j'ai toujours été contre ces pratiques parce que je suis de ceux qui pensent que ces personnes sont capables de faire des choses incroyables en dépit de leur handicap. Les voir pratiquer le basketball sur fauteuil, je me suis vite rendu compte qu'ils ont cette facilité-là de manier le fauteuil, de faire des passes précises, de faire des tirs au panier. Et ça, je ne l'ai pas encore vécu ou vu dans d'autres handisports. Et c'est la raison qui m'a poussé vraiment d'écrire sur cette discipline pour essayer de démontrer qu'ils sont capables de faire des choses incroyables si on leur laisse exprimer leur talent.
Talent que l'on retrouve dans l'équipe nationale de basket fauteuil de la RDC, les Léopards, et en particulier d'ailleurs chez les femmes.
Oui, ce sont elles qui ont le meilleur palmarès. Elles ont brillé pendant les Jeux paralympiques africains de 2023. Elles sont arrivées troisième, alors que les hommes, eux, se sont contentés de la sixième place.
Ouais, c'est déjà pas mal. Trois places quand même derrière. Ces résultats encouragent les acteurs, les sponsors pour soutenir cette discipline en RDC ou ça change pas vraiment ?
Depuis 2016, le comité national paralympique de la RDC et la Fédération nationale congolaise de basket en fauteuil se sont retroussés les manches pour développer ce sport. Et ils ont même organisé la toute première coupe du Congo de basketball sur fauteuil.
Et c'est le président de la Fédération nationale congolaise de basket en fauteuil qui a redynamisé cette équipe.
Oui, on ne peut pas parler de ce sport sans mentionner JJ Kizubanata. Alors, c'est un ancien basketteur congolais professionnel. Et c'est grâce à lui que la fédération a été enfin reconnue par le ministère des Sports en 2021.
Ouais, ça tient souvent à une poignée de personnes. On l'a vu aussi avec José Le Tartre en équitation. Il reste du chemin pour développer la compétition à l'échelle nationale, ceci dit.
Oui, il faut bien le reconnaître. Les vrais clubs peinent à exister, faute de joueurs. Alors, pour participer aux compétitions nationales, les équipes elles sont obligées de s'organiser par province. Celle de Kinshasa, elle domine largement, puisqu'elle a remporté les deux dernières Coupes du Congo.
Il y a aussi le frein des infrastructures, parce que pour le basket, il faut un terrain bien aménagé, bien plat, pour que les fauteuils puissent bien rouler. Est-ce qu'on peut retrouver d'autres équipes nationales de basket fauteuil sur le continent ?
Le Sénégal, le Maroc ou l'Afrique du Sud sont les principaux adversaires des Congolais. Mais l'équipe féminine algérienne, elle sort du panier, puisqu'elle a remporté les Jeux paralympiques africains et qu'elle est la seule à avoir participé aux éliminatoires des Jeux paralympiques de Paris en 2024.
José Le Tartre, vous vous intéressez au basket en fauteuil ou pas spécialement ? Vous qui avez touché à tellement de sports.
Je fais beaucoup de sports. J'ai essayé une fois, mais c'est un peu compliqué. Donc, il faut connaître le maniement du fauteuil en vitesse un peu rapide quand même, parce que les gars jouent très vite quand même. Ouais.
En tout cas, vous pouvez retrouver les voisins et les voisines toutes ces informations sur la page de 8 milliards de voisins, évidemment. Autre histoire à partager avec mon blog audio, les vacances scolaires approchent et pour certaines mères, ça ne va pas être de tourpeau.
Et tristesse, trouble du sommeil, sentiment de solitude. Alors le burn-out maternel s'exacerbe de plus en plus. Alors sur le continent africain, j'ai trouvé très peu de chiffres. Il y a très peu de chiffres qui existent. Mais en France, par exemple, près de 34% des mères en souffrent. Selon une étude récente, environ une mère sur deux se sent régulièrement épuisée et 45% déclarent ne pas avoir assez de temps pour elle-même.
On va peut-être entendre une mondo-blogueuse qui a justement écrit un papier là-dessus. Elle s'appelle Annick Randrianantoandro. Non, je prononce très mal.
C'est Annick Randrianantoandro.
Qui est blogueuse passionnée de Madagascar, qui est entrepreneuse digitale. Et c'est elle qui a écrit là-dessus, hein, sur ce burn-out maternel.
Oui, c'est ça. En fait, elle nous permet de reconnaître un petit peu les signes avant-coureurs du burn-out maternel. Et elle souhaite montrer qu'aucune mère ne devrait à choisir entre sa carrière professionnelle, ses enfants et le repos.
On dit souvent qu'être mère est un job à temps plein. Entre les couches et les tétés des premiers mois, les repas à cuisiner, les rendez-vous médicaux, les devoirs. On se demande parfois pourquoi il n'y a que 24 heures dans une journée, mais hé, les mamans, et si on prenait le temps de se poser? Toujours hyper connectée et souvent sollicitée dans nos rôles de mère de famille, d'épouse et d'amie. C'est usant et on se sent parfois à bout de force. Plusieurs signes peuvent nous alerter quand on est au bord du burn-out maternel. Les plaintes incessantes, les oublis, le sentiment d'être fatigué en permanence ou encore l'anxiété sont des indicateurs pour vous dire c'est le moment de faire un break et de lâcher prise. Moi, je rêve de pouvoir le faire. Partir en vacances sans devoir gérer mes enfants, sans avoir à planifier toute l'organisation familiale. Lorsque j'étais enceinte de 8 mois, j'avais organisé une sortie à la piscine pour profiter d'une belle journée de détente. Je m'imaginais, confortablement installée dans un transat, prenant un bain de soleil pendant que les enfants s'amusaient dans l'eau avec leur père. Mais une fois arrivée, la petite dernière en a décidé autrement. Je me suis donc retrouvée avec mon ventre énorme, à barboter dans l'eau pour divertir ma petite fille. Je suis repartie de cette activité, encore plus fatiguée qu'en arrivant. Je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'en offrir. Beaucoup de mamans doivent être présentes non-stop pour leurs enfants. En réalité, certaines mères, notamment les mères célibataires, jonglent entre plusieurs emplois et la gestion des enfants sans relâche, sans possibilité de prendre un moment pour elles-mêmes. Cette absence de soutien et de répit peut mener à un épuisement profond, tant physique que mental. Le monde idéal serait que toutes les sociétés acceptent que le burn-out maternel est une maladie. Imaginez si nos employeurs, nos familles et nos amis reconnaissaient la pression constante que nous subissons et nous offraient le soutien nécessaire. Prendre soin de soi ne devrait pas être un luxe, mais une nécessité. En prenant du temps pour nous-mêmes, nous devenons des mamans plus épanouies et capable de mieux gérer notre quotidien. Alors, à toutes les mamans qui m'écoutent, n'oubliez pas de vous accorder du temps, de demander de l'aide quand vous en avez besoin, et surtout, de ne pas culpabiliser de le faire. Vous le méritez. Ah, et si on responsabilisait un peu les papas? Après tout, ces enfants, on ne les a pas faits toutes seules.
Mondo Blog, chez les voisins, on peut retrouver l'article d'Annick sur le site de Mondo Blog. Merci Thibaut Matta. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir d'autres jeunes blogueurs qui parlent de tout ce qui les entoure, hein, de leur vie quotidienne. Et demain, 8 milliards de voisins, Laurence Garcia vous donne la parole sur les journaux intimes. Ça, alors là, c'est le contraire du blog. Le journal intime reste caché, il reçoit des confidences de vie. Et si vous tenez un journal intime, les voisins, les voisines, bah, vous nous appelez, bien sûr en tout anonymat. Vous nous dites quels sont les sujets que vous évoquez, qu'est-ce que cela vous apporte, se délester, y voir plus clair ou simplement le plaisir d'écrire. Vous nous contactez sur WhatsApp 33 7 64 45 51 41. José Le Tartre, vous, c'est pas vraiment un journal intime, hein. Vous avez déroulé toute votre vie de champion à vive allure et c'est publié aux presses de la Cité. Merci à vous d'avoir participé à l'émission en direct et bien sûr, on vous souhaite bonne chance pour Paris 2024 si vous êtes pas qualifié. Résultat le 9 juillet.
Oui, effectivement. Merci à vous.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.